Taxi ne nous rêve chez moi. Je crois en la vie, je rêve encore. Je vais pas faire tous ces kilomètres pour m'arrêter contre ce grillage.
C'est pour la dignité, sauver les miens de pauvreté qui n'ont pas mérité. On me refuse tous les ports et tous les aéroports. On parle de paix, on m'a donné la mort.
L'association Interface basée à Lille a été créée en 2007. Elle œuvre pour les initiatives citoyennes, solidaires et responsables. Ses actions se portent essentiellement sur la métropole européenne de Lille, mais pas que, car elle se porte également à l'échelle nationale ou européenne. Nous sommes partis à la rencontre de cette association à l'occasion du festival Regards croisés, réponse européenne sur les questions migratoires. Nous avons échangé avec Stéphanie Bost, coordinatrice de l'association Interphase.
Notre orientation avec l'association, c'est de travailler sur les communs, comment on construit des politiques publiques en associant les partenaires que sont les collectivités, les acteurs privés et puis bien sûr les citoyens. Et pour travailler sur cette question-là, on oriente autour de trois grands axes. Donc on est à la jonction entre urbanisme, participation citoyenne et culture. Et donc dans ce cadre-là, on a plusieurs actions de développement. On coordonne par exemple Festival des voyageurs alternatifs qui nous permet de réfléchir à voyager autrement ici et ailleurs. Et puis on est centre européen, centre Europe Direct depuis le 1er janvier 2018 et à ce titre-là on essaye de développer vraiment, de susciter du débat, de donner de l'information générale sur les questions européennes. En 2019 il y a un événement assez important pour les questions européennes qui sont les élections qui arriveront le 26 mai prochain et à ce titre en fait dans nos orientations de programmation pour l'année 2019 on a un avant et un après élection européenne. Et pour le avant, il y a deux thématiques qui nous semblaient vraiment prioritaires à aborder pour éviter un peu les politiques de l'autruche. C'est parler du Brexit, même si quand on en a parlé, c'était le 26 février et qu'on n'avait pas tant d'éléments. Et on n'en a toujours pas beaucoup aujourd'hui, puisqu'il y a quand même encore beaucoup de points d'interrogation. Et la deuxième thématique que nous avions véritablement envie de traiter, c'était la question des migrations. Pourquoi ? Bien parce que, effectivement, aujourd'hui, c'est un sujet qui apparaît comme un problème. Et à ce titre-là, il nous semblait véritablement essentiel d'en parler pour montrer qu'au-delà d'un sujet qui peut paraître un problème, il y a aussi des femmes et des hommes qui sont derrière, et aussi des femmes et des hommes qui sont dans une volonté d'accompagner, d'aider, et que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau local, il y a des réponses qui existent, qui ont été mises en œuvre. Donc c'était aussi ça qu'on voulait valoriser, c'est que finalement, à la manière des différentes actions qu'on peut développer avec notre Centre Europe Direct et notre association de manière plus généraliste, c'est vraiment montrer qu'il y a des réponses locale et à une autre échelle et que c'est pas toujours aussi noir ou blanc que ce qu'on essaye de nous faire croire au travers des institutions. J'ai tendance à croire que le monde n'est ni noir ni blanc, il est juste un peu gris et selon les jours il sera plus ou moins blanc ou plus ou moins noir et c'est aussi comment derrière on est en mesure d'avoir une vue un peu universelle de ce qui se passe en n'étant pas dans une vision un peu réduite, en se mettant des ornières à considérer que tout ce qui peut être du ressort de l'institution est négatif et que tout ce qui ressort de la société civile est positif. Les choses sont un peu plus compliquées que ça et malheureusement on a un petit peu tendance à oublier la complexité de notre monde aujourd'hui. Donc c'est aussi dans ce sens-là qu'on voulait vraiment faire un point sur en quoi, par rapport à la question migratoire, il y a aujourd'hui des réponses européennes qui sont pas forcément toutes parfaitement adaptées, on est d'accord, mais elles ont le mérite d'être déjà un petit peu existantes et le 26 mai prochain, si on ne va pas voter, ces quelques réponses qui peuvent paraître encore insuffisantes risquent d'être encore bien plus insuffisantes et c'est aussi en ce sens qu'il nous semblait important d'en parler. Donc c'est le premier jour, on a voulu faire un premier temps de rencontre sur la question des droits, des frais d'inscription pour les étudiants dans les universités et l'augmentation des frais pour les étudiants extra-communautaires et donc ça posait la question de justement quelles sont les réalités des frais de scolarité dans l'Union européenne. Le deuxième jour, donc on a eu un temps qui s'est tenu sur toute la journée, qui était l'idée d'avoir une bourse aux outils qui permettent de découvrir un peu des acteurs qui proposent aujourd'hui des actions, des outils pédagogiques, des jeux, des conférences. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles au travers du territoire métropolitain et pour certains vraiment des acteurs régionaux. Donc on avait par exemple la CIMAD, le CCFD, Amnesty International ou des associations d'étudiants comme Pangea, il y avait le CCFD. CFD. Bref, on avait vraiment pas mal d'acteurs, quasiment une quinzaine d'acteurs qui étaient présents hier pour pouvoir présenter les outils qui existent pour parler de la migration. On a enchaîné le soir sur un tour d'horizon, qui est un concept qu'on a développé avec Interphase dans le cadre de l'Université populaire et permanente de la jeunesse, qui est une de nos actions phares pour pouvoir toucher les jeunes de la métropole, qu'on développe grâce au soutien de la métropole européenne de Lille et de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et ça, en fait, c'est un concept qu'on essaie de mettre en place à peu près une fois par mois sur différentes thématiques en lien avec nos autres actions. Donc on avait fait quelque chose sur l'environnement, et là, hier, on l'a vraiment fait autour de la question des migrations. Et c'était extrêmement intéressant et riche d'apprentissage que de découvrir autant de jeunes qui sont impliqués tant dans des associations étudiantes que dans des associations plus généralistes, voire dans des collectifs de citoyens qui ne souhaitent pas se constituer en association, de voir l'envie qu'ils ont d'être dans une compréhension, dans un accueil des nouveaux arrivants. Et c'est la thématique sur laquelle nous étions également là ce midi, puisque l'idée était d'aborder la question de la ville accueillante. On sait qu'il y a plusieurs villes qui aujourd'hui font le pari de pouvoir agréablement accueillir les nouveaux arrivants, qu'ils soient de passage ou qu'ils soient là pour s'installer. Et donc nous avons eu le directeur de cabinet Olivier Carmel de la ville de Grande-Synthe qui nous a expliqué un petit peu les réalités de Grande-Synthe, comment les choses se faisaient, quelles étaient les orientations de la ville et quelles étaient aussi les relations que celle-ci pouvait entretenir avec d'autres territoires à l'échelle nationale et européenne. Et puis on finit ce soir avec un temps un peu plus de panorama généraliste qui nous permet de problématiser vraiment la place que la frontière peut entretenir ici dans notre région avec la perception de la migration. Et donc on aura plusieurs praticiens associatifs ou issus du travail social qui nous permettront de réfléchir à quelles peuvent être finalement les réponses européennes, puisque c'est aussi ça qu'on a envie de questionner par rapport à aujourd'hui cette question migratoire. Et il existe des réponses qui sont plutôt du ressort de réponses techniques, c'est-à-dire que dans les outils existants développés par les institutions européennes, il y a des possibilités, il y a des financements qui existent sur lesquels on peut s'appuyer pour développer des actions pleines de sens pour nos territoires.
Vous avez une exposition qu'on peut voir ici ?
Dans le cadre des 3 jours en fait, qu'on organise par rapport aux migrations actuellement sur l'île, on a fait le choix de travailler avec les structures partenaires avec lesquelles on aime bien travailler traditionnellement. Donc on a une exposition qu'on présente à l'AMRES qui s'appelle Halte aux préjugés, qui est une exposition qu'on peut voir du 1er au 10 avril. Cette exposition, en fait, elle a été rendue possible par notre partenaire du CRDTM. C'est une exposition qui est faite par un réseau national qui travaille sur l'éducation, en fait, à l'interculturel, sur l'éducation à la compréhension de l'autre, qui s'appelle Ritimo.
Sur la journée du jeudi 4 avril, nous avons également rencontré Olivier Carmel, le directeur cabinet du maire de Grande-Synthe. Il participait à un échange autour de la construction des villes accueillantes pour les migrants. Actuellement, les décisions françaises ne sont pas forcément en faveur de l'accueil des migrants. Nous lui avons donc demandé comment agir et travailler en faveur de cet accueil.
Alors pour l'instant, effectivement, on est un petit peu en stand-by dans nos relations avec l'État à Grande-Synthe, même si on a beaucoup travaillé avec eux pour asseoir, entre guillemets, la mise à l'abri des migrants donc, dans les dernières années. Voilà, donc aujourd'hui, la situation est un peu compliquée. Nous avons à peu près 700 migrants dans 2 lieux répartis sur la ville, hein, et se pose la question, effectivement, de leur prise en charge par l'État à court terme.
Alors du coup, la thématique d'aujourd'hui, c'était construire une ville accueillante pour les migrants. Qu'est-ce qu'une ville accueillante ?
Une ville accueillante, c'est d'abord une ville qui prend soin des gens qui arrivent, quel que soit leur statut juridique. C'est-à-dire qu'on fait œuvre d'humanité, on est accueillant, on offre les soins, on offre le gîte, on offre le couvert, on regarde les questions d'éducation et de culture. Donc la base, c'est l'accès aux droits.
Et est-ce qu'on en a des villes accueillantes dans la région ?
Il y en a moins une. Il y en a moins une, évidemment, Grande-Synthe. Il y a aussi Arras qui fait beaucoup donc, sur la question migratoire, mais en travaillant différemment avec d'autres publics. Ces publics sont plutôt des publics de réfugiés et de demandeurs d'asile, hein, ce qui n'est pas tout à fait le cas à Grande-Synthe où les gens sont plutôt de passage. Donc il y a ces 2 grandes villes. La ville de Lille fait aussi à sa manière, donc, en mettant des moyens, en accueillant les réfugiés de l'Aquarius, par exemple, sur la ville, hein, ou en aidant les associations, donc en permettant l'accès aussi aux soins, à l'alimentation. Voilà, donc chacun fait ce qu'il peut, et il n'y a pas de raison de montrer du doigt celles qui font, alors que d'autres ne font rien.
Comment peut-on faire, nous, à notre échelle, pour rendre une ville plus accueillante ?
Mais il faut peut-être simplement s'engager, mais sans être injonctif. Il faut peut-être se renseigner sur la manière dont on peut s'engager, soit individuellement, soit au titre d'une association. Ça peut être sur un temps long, sur un temps court, sur une action particulière ou non. L'engagement, il est à la portée de tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, quel que soit son âge, son statut, et on en constate dans nos réunions beaucoup de bienveillance là-dessus. Et c'est vrai qu'il faut convaincre peut-être les gens de s'engager un peu plus, alors pour les réfugiés, mais aussi pour eux-mêmes.
Et à l'inverse, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui pensent que rendre les villes plus accueillantes amènerait du coup plus de migrants, et ce qui ne serait pas une bonne idée? Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces gens-là?
Bah ça, c'est un vieux réflexe que tous les gouvernements ont, du ministre de l'Intérieur, certainement au préfet, dire que c'est l'accueil qui fait rentrer les gens sur le territoire. Les gens entrent sur le territoire parce qu'ils ont besoin d'y rentrer, pour transiter sur notre territoire ou pour vouloir simplement y vivre. Donc la vraie raison du départ des gens est soit des raisons économiques ou des raisons politiques ou des raisons d'intérêt personnel, mais pas pour prendre entre guillemets quoi que ce soit à qui que ce soit, mais se construire une autre vie, un autre destin, quoi. Donc la vraie question qu'on doit se poser, c'est la manière dont l'Europe est notre pays. Non pas doit, mais peut accueillir les personnes, considérant que dans nos pays industrialisés, riches, développés, cette question, elle doit être posée et on doit avoir des réponses plus concrètes, comme par exemple en Allemagne.
Donc ça peut participer à notre économie et valoriser notre économie d'accueillir justement les migrants et de rendre les villes plus accueillantes pour eux?
Oui, il y a des études d'économistes qui le prouvent. Donc la question migratoire ou l'accueil des migrants peut être aussi bénéficiaire donc, d'un point de vue économique. Donc c'est pas un vrai argument guillemets, pour repousser entre guillemets, les gens. Hein. Alors on voit bien qu'il y a des dessins ou des arguments plus politiques derrière sur le fait que voilà, donc il y a un repli des fois identitaire d'un certain nombre de pays européens. Et je suis au regret de constater que même en France, on est loin de la tradition de l'accueil ou la République accueillante, effectivement, telle qu'elle a été pendant très longtemps.
Effectivement, en ce moment, actuellement, il y a quand même assez peu de mixité entre les migrants et les non-migrants. Comment on peut répondre à ça? Et est-ce qu'on peut mettre en place des structures ou construire des choses pour justement qu'il y ait plus de mixité?
Bah, c'est une question difficile parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. Je pense que c'est plutôt la question qui suit de la première question qui nous concerne, c'est-à-dire le premier accueil d'urgence. Aujourd'hui, on est plutôt sur des situations où on fait la différence entre les réfugiés, ceux qui ont eu la demande d'asile ou qui sont en voie de l'avoir, et qui sont pleinement, entre guillemets, accueillis et qui pourront s'intégrer définitivement ou non, de la question des migrants qui viennent et qui n'ont pas le droit à l'asile pour des raisons légales, quoi. Et la question qui nous est posée, c'est de qualifier aujourd'hui la réponse aux réfugiés, mais l'État met quelques moyens supplémentaires là-dessus, donc dont acte. Mais par contre, c'est au détriment, me semble-t-il, la question de l'accueil des migrants qui, eux, sont forcément mis de côté, sont voués à retourner chez eux, sont en tout cas pas forcément bien accueillis parce qu'ils sont pas forcément tolérés en France.
Est-ce que rendre les villes plus accueillantes permettrait de tirer un trait sur les camps de réfugiés, justement, qui sont parfois invivables?
Alors, il y a la question des camps, il y a la question des jungles, hein, c'est pas tout à fait le même mot, ou des campements. Donc on a de tout dans ce pays. On a des gens qui sont accueillis dans des gymnases, on a des gens qui sont accueillis dans des campements improbables qui deviennent des bidonvilles ou qui squattent dans des bâtiments municipaux ou dans d'autres endroits. Voilà, donc la forme entre guillemets de vie des migrants, s'ils ne sont pas pris en charge par l'État, est vraiment très différente d'une région à une autre, d'une ville à une autre. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a... c'est difficile à accepter, en définitive. C'est difficile à accepter que des gens, en 2019, puissent vivre dans des conditions tout à fait indignes, hein, et qu'on peut craindre le pire pour elles.
Sur une échelle plus petite, nous, individuellement, nous pouvons agir en faveur de l'accueil des migrants. Et si vous vous demandez comment, Stéphanie Bost nous apporte quelques réponses.
On travaille avec beaucoup d'associations et pendant ces 3 jours, on a eu le grand plaisir de pouvoir rencontrer plein qu'on ne connaissait pas forcément toutes très bien. Et hier soir, de pouvoir écouter en fait les témoignages des personnes qui s'engagent depuis pas mal d'années à pouvoir accueillir, à pouvoir orienter, à pouvoir secourir selon les cas, il y a plein de choses qui sont possibles. Après, il y a vraiment plusieurs manières de s'engager. Ça peut être de manière tout à fait ponctuelle, en prenant déjà le temps de se rapprocher d'une de ces structures-là pour pouvoir, je ne sais pas moi, donner 2 heures de cours de français, aller prendre un verre avec quelqu'un bien parce que bah, c'est une manière pour cette personne de sortir de l'isolement et de pouvoir rencontrer d'autres personnes, se confronter à la culture française. C'est aussi déjà une manière de donner un peu de son temps, donner un peu aussi à l'autre. Pour les personnes qui auraient plutôt envie de donner une organisation logistique, il y a des structures qui attendent que ça, de pouvoir avoir des personnes qui font la navette pour aller chercher des personnes. Je pense à Migration 59, je pense également à des structures comme Singha qui proposent d'accueillir des nouveaux arrivants chez eux, ou comme le programme Buddy de Singha qui propose là de pouvoir prendre le temps de prendre un verre ou de faire des activités culturelles et sportives avec les nouveaux arrivants. Il y a plein de manières de s'engager. Après, c'est une question de priorité pour chacun. On a tous plusieurs vies et à nous, à chacun, de trouver son équilibre. C'est pas évident. C'est une question de choix, c'est une question de priorité, et c'est aussi pour ça que on ne peut pas être présent partout dans tous les sujets. Et à ce titre-là, il faut bien avoir en tête que nos représentants, ils sont censés être là pour ça justement. On ne pourra pas être tout le temps présent sur tous les sujets, et à ce titre, on a besoin de pouvoir se faire représenter pour les sujets sur lesquels on ne peut pas se mobiliser.
Et vous, dans l'association, vous essayez de déconstruire les préjugés et peut-être aussi d'éduquer sur cette question-là. Est-ce que vous pensez que justement on manque d'informations et que c'est peut-être pour ça qu'on ne s'engage pas ?
Oui, nous, à notre toute petite échelle et avec une réelle humilité, on n'est pas en mesure de faire ce que font plein de structures qui vont être spécifiquement sur la question migratoire. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment d'amener à faire se croiser les acteurs, à faire se croiser les publics, à faire se rencontrer les gens. On s'appelle Interface parce qu'on veut être une interface et c'est ça qu'on cible en fait. Ce qui nous importe, c'est qu'on arrive à être un petit peu plus dans un esprit critique, à déconstruire les préjugés qu'on peut avoir les uns sur les autres. Quand je parlais tout à l'heure du monde est gris, il est ni noir ni blanc, c'est aussi sortir de son confort intellectuel parfois à penser que une institution est pourrie et qu'un collectif citoyen est merveilleux. Et les choses sont bien plus complexes que ça. Il peut y avoir des collectifs citoyens pourris et il peut y avoir des institutions géniales. Après, tout est une manière de pouvoir regarder le monde et surtout une manière de s'informer. Et effectivement, je pense qu'on manque pas d'informations. De l'information, il y en a partout. Par contre, on manque de relais d'informations fiables. On manque de hiérarchisation de l'information dans la presse aujourd'hui, c'est certain. On manque aussi, quelque part peut-être, d'une institution, parce qu'on est très fan des institutions en France, qui soit en mesure de nous orienter sur la fiabilité des informations et surtout laquelle information est la plus importante à retenir. Est-ce qu'on a plutôt aussi pas trop tendance à vouloir avoir de l'information misérabiliste, à avoir de l'information qui soit quelque peu nombriliste, plutôt que d'essayer de porter notre regard sur des informations qui vont nous éveiller, qui vont nous refaire réfléchir à la complexité du monde. On est dans une société du loisir, on est dans une société qui a plutôt tendance aujourd'hui à vouloir des choses faciles, à vouloir des choses qui brillent, et c'est ça aussi qui est très difficile à déconstruire. Parce que les choses vont tellement vite que c'est complexe de pouvoir essayer de bâtir des choses dans la durée, de bâtir des choses dans la longueur, d'essayer d'avoir des choses qui durent. On n'est plus du tout dans la durabilité, à l'image de l'obsolescence programmée qui est aujourd'hui dans le viseur quant à la question technologique. On est dans une société où on est presque avec un cerveau d'obsolescence. On n'a plus envie de réfléchir, ou alors on réfléchit sur des sujets par silos. On est dans une vision qui manque de transversalité, et à notre moindre mesure, je ne dis pas qu'on est exemplaire, loin de là, on a toujours des choses à faire changer. Bah, c'est ça qu'on essaye de faire. On essaye de montrer qu'il y a de la transversalité, on essaye de montrer qu'il y a de la complexité, et ce n'est pas toujours facile.
Alors, dernière question, est-ce que c'est justement ce manque de relais, cette information un peu nombriliste, comme vous dites, qui amène à penser que l'accueil des migrants peut avoir un effet négatif sur notre économie, sur l'emploi par exemple? Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à ceux qui pensent ça justement?
Oui, je pense que ça y est intimement lié. Effectivement, c'est un côté, on a peur parce que on a du mal à imaginer ce qui se passe derrière. En fait, on a peur pour son confort, on a peur pour sa sécurité, on a peur pour son emploi, on a peur pour plein de choses, mais parce qu'on ne sait même pas vraiment pourquoi on a peur. On ne sait pas qui sont les personnes dont on a peur. Ça pourrait aussi bien être notre propre voisin et on ne s'en rendrait pas vraiment compte. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai souci à essayer de comprendre l'autre et avoir envie de le comprendre, en fait. Et ça, ça va aussi avec une volonté d'être curieux. Et malheureusement, à être dans une information qui vient à nous en permanence, dans des flux perpétuels aujourd'hui, eh ben, on est un peu en train de tuer la curiosité. Et si on tue la curiosité, eh ben, d'une manière ou d'une autre, on tue l'envie de s'éveiller, l'envie de s'ouvrir à l'autre. Et c'est bête, hein, mais je pense qu'on le voit très jeune aujourd'hui, parce que dès les plus jeunes âges, quand on est confronté à un écran trop tôt, eh bien, on manque de curiosité. Chez un enfant qui a passé trop de temps sur un ordinateur, trop de temps sur une télé, trop de temps sur un smartphone, eh bien, il va avoir beaucoup moins tendance à pouvoir être en mesure de proposer un dessin qui soit plein de détails et plein d'imaginaire. Eh bien, oui, on a besoin de réhabiliter une forme d'imaginaire, et c'est pas avec des flux perpétuels d'informations qu'on est en mesure d'y arriver. Donc, peut-être qu'on a besoin d'avoir un peu plus de liberté, de temps de cerveau disponible, de se libérer un peu de nos téléphones, de nos écrans, pour pouvoir réimaginer que la personne qu'on nous présente comme étant dangereuse n'est finalement que quelqu'un qui est porteuse de plein d'espoir, d'espoir qu'elle a trouvé au fond d'elle-même pour pouvoir traverser monts et marées, pour parvenir là où elle est aujourd'hui, et qui a beaucoup à apprendre de l'abnégation dont elle a su faire preuve et du reflet qu'elle peut attendre en venant découvrir l'Europe occidentale.
Nous sommes toujours en compagnie de Stéphanie Bost, coordinatrice de l'association Interphase.
Accueillir une personne nouvelle arrivante chez soi, c'est plein de choses. Je pense que les personnes qui l'ont faite sont toujours heureuses d'avoir aidé leur prochain, et c'est déjà une chose assez forte. Elles y ont appris beaucoup déjà sur les pays dont elles sont issues, dont sont issues les personnes qu'elles ont accueillies. Puis elles ont appris sur elles-mêmes aussi, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très fort. Apprendre sur soi, apprendre ses propres limites aussi, et puis découvrir que tout n'est pas aussi rose que ce qu'elles pouvaient l'imaginer. Dans de nombreux témoignages, les uns et les autres ont pu évoquer le fait que c'était pas toujours aussi facile que ce qu'ils pouvaient imaginer que d'accueillir. Ceci dit, rien n'est facile dans la vie, et ça va encore en corrélation avec ce que j'évoquais précédemment. On a tendance à nous rabâcher un peu les oreilles avec l'idée que tout est facile. Ben non, c'est pas facile, mais c'est ça qui est intéressant. Si la facilité était intéressante, et ben ce serait vraiment... on s'ennuierait terriblement, en fait. Et on a besoin d'avoir des défis au quotidien pour avoir envie de se lever. Sinon, effectivement, on n'a pas besoin de se lever. On reste dans son lit à regarder la télé. Et on mène une vie qui, somme toute, est un peu tristounette. Donc oui, c'est un défi d'accueillir. C'est un défi de rencontrer une personne qui parle pas la même langue, qui vient pas des mêmes horizons. Mais c'est encore plus un défi pour la personne qui est arrivée ici. Et elle a besoin d'avoir une écoute, une oreille active, avoir quelqu'un qui a un regard bienveillant pour elle. C'est des personnes qui vont avoir besoin de toute cette bienveillance-là, et c'est déjà à ça qu'il est important de pouvoir faire référence.
C'était Stéphanie Bost et Olivier Caromel à l'occasion du festival Regards croisés réponses européennes organisé par l'association Interphase. Pour les informations supplémentaires, vous pouvez consulter leur site internet www.interphase.org.
Même si je suis loin de chez moi, j'ai des droits. Comme toi, j'ai des droits. C'est le même sang qui coule en toi.